7h28 minutes, le rapport interne du CIUS de l'Estrie concernant les tristes événements de Granby où une fillette de 7 ans est décédée des suites des mauvais traitements qu'elle recevait de son père et de sa belle-mère. Ça a été rendu public hier et les conclusions du rapport ne trouvent personne de responsable. Ce qu'on dit, c'est pas une seule personne qui est responsable, mais tout un service qui peut être pointé du doigt. C'est un service complet qui a failli à la tâche. Et au bout du fil, le docteur Stéphane Tremblay, président directeur général du CIUS. Bonjour, M. Tremblay.
Bon matin.
Alors, il y a personne de responsable jamais, si je comprends bien, dans les rapports du gouvernement. On arrive, on se rend compte qu'il y a des déficiences, mais c'est la faute de personne.
Ben écoutez, je pense que socialement, pour l'instant, il semble y avoir deux personnes qui semblent responsables du décès de la jeune fille. Donc, on va laisser l'enquête policière terminer.
Oui, ça, du décès, je comprends, mais on parle des failles du système, M. Tremblay.
Pour le système comme tel, ce que nous apprend l'enquête, puis l'enquête a ses limites, on en convient tous, là. C'est une enquête qui est faite sous la gestion intégrée des risques. Et c'est un comité d'experts de tout horizon qui ont regardé l'ensemble de l'information qui était disponible. Mais au-delà de ce que la population peut voir, au-delà des 14 recommandations, lorsqu'il y a une recommandation, puis c'est important de le comprendre, là, ça veut dire que s'il y a une recommandation, c'est parce que dans le parcours de vie de cette jeune fille, il y a eu des choses qu'on doit améliorer ou qu'on doit réellement changer. Une ou des choses par recommandation. Donc, on en a 14. Ça veut dire qu'au cours des 7 ans, il s'est passé plusieurs événements qui auraient pu se passer autrement. Qui n'étaient pas nécessairement de la mauvaise volonté ou des gestes fautifs d'un intervenant ou d'un médecin, mais qui ont certainement contribué à placer cette jeune fille dans un milieu de vie qui était à haut risque.
Bon. La première recommandation, c'est s'assurer que les intervenants en protection de la jeunesse se rendent dans le milieu de vie des enfants le plus souvent possible. Moi, je pensais que c'était le cas. Comment ça se fait que c'est pas le cas?
Ça devrait être le cas, mais vous comprenez que nos intervenants actuellement font face à trois choses. Un problème de pénurie de personnel important. On a de la difficulté à attirer les gens, puis on a beaucoup de difficultés à les retenir. Puis on voit le taux de chômage sur l'ensemble du Québec. Le deuxième élément, c'est ce qu'on exige à nos intervenants en charge administrative. C'est pas 2 heures par semaine, là. C'est à peu près le tiers de leur temps qui sont dans des charges administratives. Pendant ce temps-là, ils sont pas capables d'aller voir les jeunes, pas capables de soutenir correctement les familles. Donc, c'est vraiment important. Et ce sont des exigences administratives qui proviennent parfois de l'établissement ou du réseau, mais qui proviennent parfois de partenaires également. Donc, ce sont des éléments qui devront être regardés dans la commission nationale. Et le troisième élément, c'est la hausse des signalements année sur année au cours des 4-5 dernières années. C'est important. Pour l'Estrie, pour la population de l'Estrie, on parle de 450 000 personnes en Estrie. Ça nous amène à 150 signalements par semaine, alors qu'on en avait en deçà de 100 il y a quelques années. C'est énorme, ça.
Je veux bien, M. Tremblay, mais cette fillette-là était suivie depuis sa naissance par les services de la DPJ. Et puis, à un moment donné, le père décide de faire un arrêt de scolarisation. Il sort de là, lui, et de l'école. Et puis, personne n'est allé voir c'est ce qui se passait à la maison. C'est pas normal, ça, alors que vous la suiviez depuis sa naissance, cet enfant-là. C'est pas un nouveau cas, là. C'est quelque chose c'est une fillette qui était connue des services là-bas. Alors, elle passait à travers les mailles du filet?
Ben écoutez, la première chose, je pense que vous avez raison. Cette jeune fille-là était connue des services, de nos services et des services de nos partenaires également. Il ne faut pas l'oublier. La deuxième chose, c'est que l'enquête interne ne juge pas du bien fondé d'une décision d'un partenaire, dont l'arrêt de scolarisation dans une école publique. On va laisser au réseau de l'éducation de faire sa propre analyse et de convenir des recommandations qui doivent être appliquées pour eux. Cela étant, je suis d'accord avec vous, quand on regarde les recommandations, on peut comprendre que peut-être que les visites n'ont pas été aussi nombreuses. À quel moment de sa vie? Moi, je n'ai pas cette information-là pour l'instant, mais on peut comprendre que le fait d'arrêter la scolarisation pour un enfant qui est déjà en difficulté, qui est déjà dans un milieu qui présente certains défis ou qui rencontre certains défis, le fait de l'isoler dans son milieu familial ne fait qu'augmenter les risques. Je suis d'accord avec vous là-dessus.
Bon. Le comité d'enquête recommande un transfert rapide des dossiers entre intervenants. Ça veut dire, si je comprends bien, que les différents services ne se parlent pas. C'est-à-dire qu'il manque d'interaction entre tout le monde, finalement.
Ça veut dire essentiellement que l'information transige la plupart du temps sans qu'elle soit nuancée par un transfert personnalisé, par un échange verbal ou autre. Je vous donne un exemple parce que ça, c'est une donnée connue. Puis moi, j'ai eu l'occasion de parler à la commission scolaire à Val-des-Serres à quelques reprises. L'arrêt de scolarisation, c'est une décision de la commission scolaire et on ne jugerai pas ce matin de cette décision. Par contre, Moi, je peux vous dire que nous, on savait qu'il y avait eu arrêt de scolarisation à l'école, qu'on a obtenu cette information-là, mais normalement, dans le meilleur des mondes, selon les bonnes pratiques, cet enfant-là était connu de l'équipe Intervention Jeunesse. Son dossier était connu de l'équipe Intervention Jeunesse, qui est une équipe multidisciplinaire, mais multipartenaire également. L'arrêt de scolarisation aurait pu être discuté à l'équipe Intervention Jeunesse et fort probablement que les actions qu'on aurait posées les jours suivants auraient pu être différentes. Afin de sécuriser le milieu encore plus familial et de s'assurer que la scolarisation à la maison débute rapidement. Bon, il semble que ça ne soit pas le cas.
Et ça aurait imposé une visite pour aller voir ce qui se passe à la maison, n'est-ce pas?
Visite des services du CIUS de l'Estrichus ou des services des partenaires, effectivement.
Ouais. Donc, comme l'information n'a pas circulé, il n'y a pas eu de visite. Donc, on n'a pas su ce qui se passait avec la jeune fille. À ce moment-là, on aurait vu ce qui se passait avec la jeune fille dans la maison, puis on serait intervenu.
Ce que je vous dirais, c'est que l'information a circulé. Je veux juste reprendre votre propos. L'information, elle n'a pas été discutée nécessairement entre les partenaires dans un même moment en groupe.
Oui, mais M. Tremblay...
Et fort probablement, on n'a pas convenu qui allait faire quoi dans les prochains jours. Non. C'est ça qui est important.
C'est ça.
Sauf que d'avoir une information, c'est de savoir qui va poser le geste et de s'assurer qu'on ne pensera pas que c'est notre collègue du réseau scolaire qui va le faire alors qu'il ne le fera pas. C'est ça qui est important dans une situation comme celle de la jeune fille.
Le résultat, c'est que personne n'est allé voir ce qui se passait dans la maison, savoir si elle était véritablement scolarisée ou non. Et si ça avait été le cas, si quelqu'un était allé voir, on serait rendu compte qu'elle ne l'était pas puis qu'elle était attachée dans la maison finalement. Et là, on serait intervenu puis elle serait peut-être pas morte.
Bon, manifestement, vous avez de l'information que je n'ai pas, parce que moi, je ne peux pas dire que personne n'est allé pendant le temps où elle était à la maison, parce que je n'ai pas l'information des partenaires.
Bon, là, je vois le syndicat qui émet un communiqué ce matin, et là, on dit, les 14 recommandations de ce rapport-là, ça fait des années qu'on le dit au CIUS, puis là, il a fallu la mort d'une fillette de 7 ans pour que finalement on décide d'agir.
Écoutez, ça, c'est l'interprétation du syndicat. Moi, je peux vous dire qu'on est en échange avec eux de façon constante. On est en train de travailler avec eux également pour sécuriser le plus rapidement possible les postes. Une stratégie est en train d'être développée avec eux, puis ça avance rapidement. Je ne veux pas en parler plus ce matin, mais c'est leur interprétation de ce qu'ils voient. Je vais leur laisser leur interprétation comme telle. Mais vous savez, dans les recommandations, dans les 14 recommandations, la majorité des recommandations doivent être prises en charge par le CIUS de l'Estrichus, mais certaines doivent être abordées par la Commission nationale.
OK. Donc, vous le dites, puisque ça va être abordé par eux autres, on ne veut pas aller plus loin là-dedans pour l'instant.
Bien, c'est-à-dire que si on parle de la recommandation qui est en lien avec les figures parentales qui ne sont ni des parents biologiques ni des parents d'adoption, je peux comprendre que le syndicat nous indique que ça fait des années qu'il nomme cette recommandation. Personnellement, je ne l'ai jamais entendue, là. Donc, je vais leur laisser le doute. Mais cette recommandation-là, c'est la loi. Il faut modifier la loi. Il faut donner des leviers dans la loi pour que nos intervenants puissent agir auprès des figures parentales qui ne sont ni parents biologiques ni parents d'adoption. Et ça, ça doit être discuté dans la Commission nationale.
Bon, Lionel Carman va annoncer aujourd'hui 47 millions pour justement embaucher de nouvelles ressources. Évidemment, ce n'est pas juste pour le CIUS de l'Estrie, là, c'est pour l'ensemble de la DPJ à travers le Québec. J'imagine que ça doit être bienvenu là, comme annonce chez vous?
C'est toujours bienvenu. Okay.
Il manque combien d'argent chez vous là, pour que vous soyez confortable?
Bien, je vous dirais qu'on n'est pas dans une question d'argent. L'argent est bienvenu parce que ça nous aide à sécuriser les postes, mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Il y a l'argent, bien entendu, parce qu'on est capable d'engager des gens, mais il faut revoir la tâche des gens pour dégager le plus possible du temps pour qu'ils soient près des jeunes. Et ça, c'est important ce que je vous dis là. Et c'est pas l'argent qui va changer ça. C'est vraiment des réflexions qu'on a à faire du point de vue collectif. Et il faut essayer de comprendre encore plus pourquoi on a une hausse de signalement aussi importante que ça. 14 % en un an en Estrie, là, c'est énorme.
Comment vous l'expliquez?
Bien, pour l'instant, écoutez, nous, il y a 2 ans, on a demandé à la direction de la santé publique de nous faire un portrait de notre population puis d'essayer de comprendre pourquoi on avait une hausse de signalement si importante. Tout groupe signaleur confondu, parce qu'on a des signalements qui proviennent de nos professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. Il y a des signalements qui arrivent des policiers, il y a des signalements qui arrivent du réseau scolaire. Et tous les groupes ont augmenté leur nombre de signalements. Donc, c'est très difficile. L'étude de la santé publique de l'Estrie n'a pas été concluante sur une cause. Et lorsqu'on en parle avec nos collègues du réseau, il n'y a pas vraiment, pour l'instant, de cause déterminée. Ça semble être effectivement un mouvement qui apparaît partout. Et ça, on va devoir creuser cette réflexion-là encore plus parce que, manifestement, la direction de la protection de la jeunesse, quand on appelle la DPJ, c'est comme si on allait aux soins intensifs dans un hôpital, là. c'est comme le dernier bout du chemin qu'on a à faire et la dernière porte de sortie qu'on a à prendre. Il n'y en a pas d'autre après.
Ouais.
Donc, on a une réflexion collective à faire. Pourquoi au Québec, dans une société qui actuellement a un taux de chômage relativement bas, des déterminants sociaux qui s'améliorent parce qu'on regarde juste la durée moyenne de vie qui s'allonge, comment se fait-il que les signalements progressent à cette vitesse-là? Je pense qu'on a une réflexion au Québec à faire.
Bon, je veux juste revenir en terminant sur, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait revoir la charge de travail, la façon dont les gens, le personnel travaille finalement pour être plus efficace. J'espère que vous n'attendrez pas les conclusions de la commission Laurent, là. J'espère que vous allez essayer de trouver des solutions maintenant et les appliquer le plus rapidement possible.
Absolument, notre plan d'action est déjà en cours. Il y a des choses qui nous appartiennent là-dedans, les outils, les façons de travailler comme telles, l'organisation du travail, ça nous appartient. Il y a des choses qui appartiennent bien sûr au réseau, puis il y a des choses qui appartiennent à d'autres ministères, donc on va regarder ça par étapes. Puis vous comprenez que l'enquête interne, c'est une partie de la réponse, ce n'est pas la totalité de la réponse, et que notre plan d'action devra s'adapter avec les résultats de l'enquête du coroner, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et bien sûr la Commission nationale.
M. Tremblay, merci d'avoir été avec nous.
Merci. Bonne journée.
Le président-directeur général du CIUSSS, Stéphane Tremblay.